c'est donc le sujet de ce soir, les mythes fondateurs en Europe, avec les exemples de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la France et un petit peu de l'Allemagne, donc dans les marges. Et je pense que c'est une thématique qui actuellement est très intéressante parce que nous vivons une époque en Europe où les identités à la fois nationales mais aussi européennes sont remises en compte et les mythes qui sont derrière parfois disparaissent, parfois résurgissent. Et la question, c'est ma question personnelle qui se pose un peu, ces mythes que vous allez nous présenter ce soir, est-ce que ce sont des éléments de notre identité qui peuvent nous rapprocher? Parce qu'il y a peut-être des éléments communs ou des interrogations communes derrière, ou est-ce que ce sont plutôt des éléments qui nous séparent parce qu'ils renforcent l'identité et peut-être aussi les distances entre les nations. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup pour l'initiative et pour l'organisation à Jean-Charles Marloton. Merci à nos intervenants d'avoir été prêts à être avec nous ce soir.
J'accueille donc des collègues des universités lyonnaises. Pascal Briet-Dubois, qui est helléniste à Lyon 2 et qui nous parlera de la France, mais aussi avec la dimension de l'Antiquité derrière. Anne-Marie Pascal, qui est lusitaniste, on dit en français, je pense.
Lusiste.
Et qui nous parlera du Portugal. Philippe Meunier, qui était à Saint-Étienne et qui, Dieu merci, a rejoint l'Université de Lyon 2. Et qui est donc professeur d'espagnol à Lyon 2, qui nous parlera de l'Espagne. Et enfin, Pierre Girard, qui est de Lyon 3, lui. Et donc, je suis vraiment ravi de cette connexion, qui nous parlera de l'Italie. Donc, le sujet, parler des mythes fondateurs des pays européens, peut paraître un sujet ambitieux, risqué. Les mythes, on peut dire, ont souvent pas très bonne presse, ou alors quelquefois ils ont trop bonne presse. Malgré tout, on peut dire qu'il y a une présence de cette dimension de la réalité sociale sans qu'il y ait pour autant nécessairement une prise de conscience de cette dimension. J'en veux pour preuve simplement le fait que l'Europe qui nous réunit ici, en particulier, garde, quoi qu'on le veuille, même si on n'y pense jamais, la trace lointaine, non effacée, de cette fille du roi de Tyr. Tyr étant une ville sur la côte méditerranéenne de la Syrie actuelle. À l'époque, c'était la Phénicie, c'est-à-dire le nord de la Palestine. Et avec la Palestine, ça constituait le pays que les Hébreux appelaient Canaan, c'est-à-dire la terre promise. Et cette fille du roi de Tyr, qui s'appelle donc Europe, lequel mot Europe veut peut-être dire le couchant, par opposition à un autre mot qui voulait dire le levant, ou ça voulait peut-être dire qu'elle avait des yeux très ouverts, on ne sait pas trop, il y a deux interprétations. Et bien cette Europe a été repérée du haut de l'Olympe par Zeus, et une fois de plus il s'est transformé en animal, amphitryon, je pense que c'est plutôt une exception à la règle, hein. En général, il se transforme en animal. Il s'est transformé en taureau, mais alors un joli taureau, un joli taureau tout clair, avec des couronnes, avec des cornes, dont Ovide, dans le deuxième livre des Métamorphoses, nous dit qu'elles étaient certes courtes, mais qu'elles étaient parfaites. Et donc, cette jeune fille s'est mise à caresser le taureau, qui était trop mignon, et à lui couvrir ses cornes de bouquets de fleurs, hein, de guirlandes de fleurs. Et alors peu à peu, elle est montée sur son dos, et puis peu à peu il est descendu sur la plage, et puis il est entré dans l'eau, et puis comme ça il s'est mis à nager, et il l'a conduit, comme vous savez, en Crète, où elle a donné naissance quelque temps plus tard au fameux roi Minos, hein, donc elle a donné naissance à la civilisation première de l'Europe, à la civilisation minoenne. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui est derrière l'Europe, qu'on le veuille ou non, c'est un mythe fondateur de l'Europe qu'on ne peut pas complètement écarter. En tout cas, il me semble compréhensible que l'Eunique, dont on vous a parlé tout à l'heure, s'interroge un peu sur certains aspects importants ou originaux qui font la matière dont est faite l'Europe. Alors il s'agira ici, on s'est mis d'accord là-dessus, de montrer un peu les mécanismes de ces processus, leurs fonctions, leur efficacité ou leur échec, en choisissant des exemples qui sont pris dans un passé historique. Sans que nous nous interdisions par ailleurs de parler, y compris dans la discussion qui fera suite, du temps actuel. Il me semble que la thématique choisie, donc les mythes fondateurs, permettra d'aborder quelques points, pas brièvement la totalité, comme qu'est-ce qu'on entend par un mythe fondateur, qu'il ne faudrait pas confondre avec un mythe d'origine, comme la Genèse, quand c'est pas la même chose. On peut dire que la psychologie permet de définir le moi, le je, et peut-être que les mythes fondateurs aident à définir socialement le nous, souvent d'ailleurs à l'opposant aux autres. Autre question, quel rapport ces mythes ont avec l'histoire? Comment l'histoire est transformée par le mythe? Le mythe, d'ailleurs, est le lieu permanent d'une transformation. On a pu dire, et je suis assez d'accord avec cette idée, qu'il n'y a de mythe que dans la mesure où il y a réécriture du mythe, où il y a travail sur le mythe. C'est le titre d'un livre d'un philosophe allemand qui est mort il y a peu de temps, je crois il y a 2 ans, qui s'appelait Hans Blumenberg, sur qui on a travaillé récemment. Autre question, quelle dimension? Évidemment, quelle est la dimension éventuellement universelle de ces représentations particulières des mythes nationaux, si on peut dire. Quels sont les aspects féconds ou au contraire les aspects dangereux de ces processus? Le côté nocturne, on pourrait dire, du mythe, sa potentialité dangereuse comme manipulation est peut-être l'autre face de son côté fédérateur, de son côté entraînant, les deux côtés ayant peut-être un rapport avec une dimension religieuse au fond, un mythe peut-être comme ersatz de religion dans une société qui s'éloigne du religieux. En tout cas, on sait que le mythe n'est pas soumis à l'impératif de vérité, mais au contraire d'efficacité. Il ne s'adresse pas à la raison, il s'adresse au sentiment, il s'adresse à l'affectivité, il s'adresse à l'imaginaire, à la fantaisie, diraient les Allemands, éventuellement à la passion. Donc, quels sont les mythes fondateurs et ou certains mythes fondateurs, parce qu'évidemment on prend des exemples simplement de nos nations européennes. Voici quelques exemples, dont les 3 premiers nous replongent dans l'histoire, et tous les 3, moi à la fin d'ailleurs je parlerai un petit peu de l'Allemagne, et je parlerai aussi un tout petit moment du XVIe siècle, les 3 nous replongent d'abord au XVIe siècle, et même en deçà.